Vous écoutez RTL. RTL Matin,
Bernard Poiret jusqu'à 9h15.
RTL 7h48, Bernard Poiret, vous recevez ce matin Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines.
Aurore Berger, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Est-ce que, à titre personnel, au moins vous regrettez que de ne pas avoir votre mot à dire dans cette affaire de loi travail? Ça va passer par ordonnance, hein, donc bon, voilà, les députés ne servent à rien là-dedans.
Vous savez, c'est une rengaine qu'on entend depuis le début de la session parlementaire, de dire qu'on ne sert pas à grand-chose, comme si on avait des sortes de godillots aux pieds et qu'on servait juste à appuyer sur des boutons. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir des godillots aux pieds. Je sais qu'on a eu un débat, justement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce que pour voter les ordonnances, il y a d'abord des lois d'habilitation. Et donc, on a eu ce débat au sein de l'Assemblée nationale. Ça a permis, par exemple, d'augmenter les indemnités en cas de licenciement. C'est une avancée qu'a permis, justement, l'Assemblée nationale et notre groupe majoritaire.
Vous auriez souhaité pouvoir faire plus dans le cadre de ce débat ou de ce que vous avez pu apporter?
Moi, je souhaite surtout qu'on aille vite et qu'on obtienne des résultats. C'est la raison pour laquelle on a fait le choix de passer par les ordonnances, justement, de manière à être rapide dans la manière avec laquelle on peut mettre en place des réformes qui sont essentielles. C'est un chantier qui va s'étaler sur 18 mois, avec notamment un point extrêmement important qui est celui de la formation professionnelle. Parce que je pense que la meilleure garantie quand même qu'on ait contre le chômage, c'est justement la compétence que l'on peut acquérir, la qualification, et ça passe par une réforme très profonde de la question de la formation professionnelle.
Aurore Berger, cette Assemblée nationale, tout à fait nouvelle, il faut le dire, à 2 mois maintenant, hein, d'existence et de pratique, elle fonctionne bien ou est-ce que sa jeunesse et son manque d'expérience posent des problèmes? Est-ce que ça coince?
Moi, je pense que ce qui posait problème, plutôt dans les précédentes assemblées, c'est des gens qui étaient censés avoir beaucoup d'expérience, mais qui en fait étaient là depuis très longtemps.
Et qui ronronnaient?
Je ne sais pas si ronronner, mais je pense qu'en tout cas, la volonté de durer, ça ne permet pas forcément d'agir. Et nous, je sais qu'on a agi et beaucoup pendant cette session sur la prorogation de l'état d'urgence, sur les lois d'habilitation aux ordonnances, sur la loi sur la confiance dans la vie politique. Je pense que si on n'avait pas renouvelé cette assemblée, on n'aurait pas mis un terme, par exemple, aux emplois familiaux, on n'aurait pas supprimé la réserve parlementaire, on n'aurait pas encadré les frais de mandat. Et ça, je pense qu'on doit au fait qu'on a une assemblée qui est très renouvelée, à la fois sociologiquement, avec des gens qui viennent de la société civile, féminisée, ce qui change aussi beaucoup les comportements qu'on peut avoir au sein de l'Assemblée, et ça, c'est pas si anecdotique.
L'ambiance est totalement différente.
J'ai du mal à comparer, puisque je n'étais pas là précédemment. Mais quand je vois les différentes petites phrases qui sortaient, la difficulté qu'avaient certaines femmes à s'exprimer, à se vêtir tout simplement comme elles le souhaitaient, ça nous paraît aujourd'hui complètement obsolète dans cette Assemblée-là. Bah, malheureusement, ce n'était pas si évident que ça il y a encore 2 mois.
Ça se passe bien entre vous et Richard Ferrand, le président du groupe?
Oui, ça se passe bien entre nous et Richard Ferrand.
Parce que bon, il est arrivé là où il est aujourd'hui après des zigzags un peu particuliers. Et tout va bien entre vous?
Il n'y a pas de zigzag particulier. Il a été réélu, tout simplement, député du Finistère. Et vous savez, ce n'est pas évident d'arriver à être président d'un groupe parlementaire qui plus est d'une majorité qui est extrêmement puissante à la fois, mais avec aussi des gens qui ont des parcours très différents. La grande différence par rapport à tous les autres groupes parlementaires, c'est qu'ils ont une histoire ensemble. Depuis des années et des années, ils ont milité ensemble. Nous, finalement, on se découvre progressivement parce qu'on a fait cette campagne présidentielle ensemble. Et puis après, on a chacun été dans nos couloirs pour les élections législatives. Donc il faut qu'on arrive à créer cette équipe ensemble. Et je pense qu'on a le bon président, à la fois de la République, évidemment, pour le faire, mais aussi le président de groupe.
Alors vous, je le rappelle aux auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément, vous avez soutenu en votre temps Alain Juppé, puis d'autres personnalités de droite aussi avant M. Juppé. Finalement, vous vous êtes rallié à La République En Marche, sans regret, là, avec le recul, là.
Sans regret pour plusieurs raisons.
Pour vous, hein.
Sans regret déjà, parce que moi, je vois ce qu'on est en train de mettre en place et les réformes qu'on est en train de voter. Donc, je suis contente de voir que on tient nos engagements. Peut-être que c'est ça aussi la nouvelle politique, tout simplement, c'est de tenir les engagements sur lesquels on a été élus.
Oui.
Et sans regret d'autant plus quand je vois l'état, malheureusement, de la droite aujourd'hui, qui risque de se jeter dans les bras de Laurent Wauquiez dans quelques semaines.
Oui, justement, vous êtes très très critique de ce que devient la droite, tout courant confondu, ou en tout cas, c'est parce que M. Wauquiez risque de gagner. C'est ça qui vous gêne.
Je pense que Laurent Wauquiez, c'est une résurgence de la manière avec laquelle la droite française, finalement, a évolué.
Oui.
Et elle a évolué un peu comme Laurent Wauquiez, c'est-à-dire au départ, c'était le tenant de la droite sociale, puis ensuite, ça a été le cancer de la Cistanin, puis c'est une droite tellement à droite que même le Front National lui a donné une carte d'honneur de son parti politique. Donc moi, c'est pas un chemin qui, en tout cas, me correspondait. Et je pense pas que ça corresponde à beaucoup d'électeurs de droite qui s'en sont détachés clairement au moment de la présidentielle, mais aussi au moment des législatives. Moi, j'étais contre Jean-Frédéric Poisson aux législatives,
oui.
Qui était tenant d'une droite particulière, qui, à mon avis, ne représentait pas l'ensemble des sensibilités de ce mouvement, ou de même le Parti des Républicains. Il a été battu comme d'autres tenants de cette droite-là.
Vous avez été très proche en votre temps, je le disais, d'Alain Juppé. Je ne sais pas si vous avez encore le contact avec lui, mais lui, il ne parle pas trop aux journalistes ces temps-ci. Il a digéré, ça va, ses rancœurs, ses regrets peut-être ?
Moi, je ne l'ai jamais vu avec des rancœurs. Je pense que ce n'est pas la manière avec laquelle il a conçu sa vie politique et la manière avec laquelle il a exercé des responsabilités.
Oui.
Je pense qu'il a peut-être eu des regrets qui étaient légitimes par rapport à la manière avec laquelle aussi la primaire s'est passée, parce que je pense qu'il y a eu une ambiguïté sur la victoire de François Fillon, qui, je pense, n'a pas été élu sur le projet qu'il avait porté, mais sur voilà, un enchaînement d'ambiguïtés, le fait que les primaires ont finalement plus servi à sortir du jeu des hommes politiques qu'à choisir certains d'entre eux. Et moi, en tout cas, c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'estime et d'amitié.
À propos de François Fillon, on vient d'avoir la confirmation ce matin que finalement, il va reverser un peu moins de la moitié de tout l'argent qu'il a récolté pendant les primaires. Il y avait quand même des millions d'euros en jeu au parti, donc les Républicains. Il a fallu le pousser un peu. Ça vous semble être la moindre des choses ?
Qu'il
donne l'argent, enfin.
La moindre des choses qui leur rendent l'argent. Il ne le fait pas en totalité, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Non, pas tout, non.
Mais ça me paraît en tout cas extrêmement cohérent dans son attitude par rapport à celle qu'il a eue dans le cadre de la présidentielle et les différentes affaires qui ont émaillé cette campagne.
C'est-à-dire son rapport à l'argent, qui est un peu ambigu ?
Vraisemblablement, il l'a été quand on voit les différentes affaires qui ont été les siennes et qui ont, je ne pense pas, confisqué la campagne présidentielle. Par contre, je pense que ça a démontré qu'il y avait une sensibilité nouvelle des Français sur le rapport des politiques avec l'argent public, et c'est la raison pour laquelle on a voté ce projet de loi. Et quand je vois l'attitude justement des Républicains qui, là, au milieu de l'été, ont déféré ce projet de loi devant le Conseil constitutionnel, notamment sur les emplois familiaux, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse continuer à embaucher des membres de sa famille, quand on voit que ce sont les Républicains, après ce qui s'est passé avec l'affaire Fillon sur la question de l'emploi de son épouse et de ses enfants, qui demandent au Conseil constitutionnel d'annuler cette disposition, je trouve que c'est quand même à minima, je pense, à côté de la plaque par rapport à ce qu'attendent les Français, est quand même assez cocasse que ce soit de leur part à eux.
À propos d'argent et de moralisation de la vie publique, vous n'avez été que 4 députés, dont vous, d'ailleurs, Aurore Berger, à dire que dorénavant, tous vos contacts à venir avec des entreprises privées qui viendraient vous solliciter à titre d'élu de la République, eh bien, tous ces contacts seront totalement limpides et publics, de manière à ce que les choses soient claires. Vous n'êtes pas vendu à tel lobby ou à tel autre. Mais 4 députés, c'est rien.
Alors non, on a été 4 à signer une première tribune. Je pense qu'on sera... On est déjà plus nombreux que ça, très honnêtement.
Et
je pense qu'on sera... Non, mais je pense que c'est une pratique qui va forcément évoluer. C'est-à-dire qu'il y a ce qui peut passer par la loi, le cadre normatif, et il y a les comportements individuels qui peuvent changer les choses. Le fait de rendre nos agendas publics, je pense que ça permet et de lutter contre l'antiparlementarisme qui dirait que finalement les parlementaires bossent pas assez.
Ouais.
Je pense que là, les gens peuvent se rendre compte par la preuve du travail qui est le nôtre, et puis aussi de lutter contre le soupçon justement de la collusion d'intérêts, du conflit d'intérêts, parce que, bah oui, on rencontre en effet des gens qui sont des lobbyistes, mais des lobbyistes, ça peut être des syndicats, ça peut être des ONG, ça peut être des associations, des fédérations professionnelles. Ça éclaire aussi la prise de décision. L'important, c'est qu'on le rende public et qu'on rencontre suffisamment de gens justement pour confronter des points de vue différents.
Aurore Berger, 100 jours d'Emmanuel Macron à l'Élysée, un peu plus là, 104-105, 62% des Français sont insatisfaits. Bon, vous allez me dire, c'est la loi de la démocratie, c'est à tous les coups, quand on se frotte au pouvoir, forcément, on fait beaucoup d'insatisfaits. Ou est-ce qu'il y a des raisons profondes à cette insatisfaction, au vu de ce qu'il a déjà fait ?
Moi, je ne sais pas si c'est une insatisfaction, je pense qu'il y a une attente qui est très forte. Moi, c'est ce qu'on a ressenti aussi pendant nos campagnes sur les législatives, c'est-à-dire qu'il y a une attente qui est d'autant plus légitime qu'on a été déçus par les quinquennats précédents, qui avaient promis des réformes et qu'ils n'avaient pas tenu. Moi, ce que je sais juste d'Emmanuel Macron, c'est que pourquoi il est parti du gouvernement de François Hollande. Parce que quand il a voulu réformer ce pays, avec une loi qui porte d'ailleurs son nom,
oui,
il n'a pas pu aller suffisamment loin. Il a acté un désaccord sur la question de réformer la France. Et il est parti, Il est devenu président de la République. Il a permis d'avoir une majorité parlementaire à son mouvement politique. Donc moi, je ne suis pas inquiète sur le fait qu'on va réformer. Alors peut-être que le fait de réformer provoquera parfois des questionnements. Ce sera à nous, justement, bah, d'expliquer, de faire de la pédagogie. Mais moi, je vois moins une insatisfaction qu'une attente qui est de nous dire on veut des résultats et on veut des résultats rapidement.
Écoutez, on verra à l'usage, hein. Puisque cette rentrée est présentée par certains de mauvais augure, peut-être comme une rentrée explosive, potentiellement sur le plan social. Merci beaucoup, merci. Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite une bonne rentrée, en tout cas.
Merci.